anthropologique et philosophique et un peu théologique de la danse qui m'a fait découvrir combien le corps est langage, en fait. Alors c'est quelque chose de cet itinéraire que je vais vous partager à travers l'expérience de la voile. Et finalement, bon, moi j'ai grandi dans une famille assez sportive et j'ai fait du sport assez intensif. Alors j'ai commencé par la gymnastique en club assez poussée dans le primaire, puis on a déménagé, j'ai pas pu poursuivre la gym, mais par le collège où j'avais des profs de sport très investis, j'ai fait alors à ce moment-là beaucoup de championnats, athlétisme, cross, basket, et parallèlement du tennis. Mes parents faisaient du tennis en compétition. Et puis la voile, c'était le sport des vacances. J'ai grandi en passant des vacances en Bretagne, où j'ai appris la voile comme ça, voilà, optimiste, planche à voile, dériveur, voilier. Et c'est surtout pendant mes études où j'ai fait une école de commerce, il y avait un club voile. Et là, très vite, je me suis investie dans le... fallait choisir un sport, et puis j'ai été dans le club voile de l'école. Et en fait, en voile, en compétition, j'ai commencé la régate, on va très vite, c'est un petit monde la voile, et du coup, j'ai beaucoup régaté pendant mes 3 ans d'études, et ça m'a amené à faire bon, les régates classiques en Bretagne, Spi West France et autres, et le Tour de France à la voile, 2 années en équipage d'étudiants. Voilà. Et du coup, j'ai appris je suis devenue skipper en régate. Et là, j'ai appris une manière de naviguer où on pousse son bateau à fond, on a la vie d'équipage. Et puis, après mes études, 1 an de volontariat, 2 ans de travail, je suis rentrée dans la vie religieuse. Et c'est vrai que pour moi, en entrant dans la vie religieuse, je renonçais à cette passion qui était la voile, qui s'était développée notamment pendant mes études. Et je me souviens toujours de ma dernière régate avant d'entrer dans la vie religieuse où je me suis dit, voilà, ça y est, je remettrai plus jamais les pieds sur un bateau. Que je pensais, et même si la voile était une passion très forte, parce que ce que j'aime dans la voile, c'est que c'est à la fois, c'est d'abord très physique, la voile, en fait, sur un bateau, ça passe vraiment par les sensations. Dès qu'il y a du vent, ça devient quand même très sportif. C'est toute la dimension de l'équipage qui est extrêmement forte. C'est l'organisation, parce que aller faire des régates, partir s'entraîner le week-end, comme je le faisais aux entraînements d'hiver de la Trinité, voilà, c'est toute la logistique, l'organisation, c'est la vie ensemble. Enfin, je trouvais que c'est la tactique sur un plan d'eau, il faut réfléchir, le vent, les courants. Donc, je trouvais que c'était un sport très, très complet, mais je faisais l'expérience qu'il y avait une dimension... Alors, à l'époque, je ne savais pas la nommer, mais qu'il y avait une dimension qui me manquait. Et même si c'était une passion forte, bon, voilà, il y avait l'appel du Christ qui m'emmenait plus loin. Et en fait, ce qui a été très, très beau pour moi, c'est comme je l'évoquais hier, pendant 4 ans, j'ai pas navigué, pendant mon début, postulat, 2 ans de noviciat. Et puis mes supérieurs qui savaient, qui avaient entendu quand même que j'aimais la voile, que j'étais skipper, elles connaissaient une proposition qui existe depuis 1995, qui s'appelle « Vie en mer, entrée en prière », qui est née à l'intérieur de ce qu'on appelle le réseau jeunesse ignatien, qui vise à proposer des propositions spirituelles pour les jeunes de 17-30 ans, à partir de la pédagogie des exercices spirituels de Saint Ignace. Voilà. Et à un moment donné, il y avait 2 jésuites et un couple qui naviguaient et qui se sont dit, et ils cherchaient comment proposer des retraites à un public plus large. Et ils ont eu l'intuition, et de là est née Vie en mer, que c'est vrai que le bateau et la mer, c'est quand même extrêmement porteur, et que cette joie qu'ils avaient à naviguer, il fallait la partager. Et que ça pouvait être une porte d'entrée pour toucher des jeunes, voilà, qui n'iraient jamais d'emblée dans un centre spirituel comme ici. Et donc, ils ont imaginé et conçu, et je vais vous parler un peu de cette pédagogie, ce qui s'est appelé donc une croisière retraite, vie en mer, entrée en prière. Voilà. Et mes supérieurs ayant entendu parler de ça, un jour m'ont dit, mais tu sais, tu devrais les contacter, je crois qu'ils cherchent des skippers accompagnateurs spirituels. Donc la voile m'a été redonnée comme un terrain de mission et ça a été une expérience extraordinaire. Ce que j'évoquerai aussi, c'est que, je l'ai un peu dit hier, je crois qu'il y a vraiment plusieurs manières de faire du sport. Et en fait, pour moi, ça a été très bon de ne pas naviguer pendant 4 ans. J'ai été très dans une... Et puis alors, toutes mes études, ma formation sportive m'a beaucoup mise dans la compétition, aller plus loin, gagner... pousser son bateau à fond, se surpasser. Et après, à vie en mer, entrée en prière, quand on m'a proposé de skipper, là, j'étais plus dans un cadre de régate. J'étais avec des débutants parce qu'on accueille tout le monde qui ne savent pas naviguer. Donc j'ai été refaire un stage de formation de skipper avec les Glénans et j'ai appris toute une autre approche qui prend en compte davantage la sécurité, qui prend en compte l'écoute des personnes. Et en fait, le bon skipper, c'est aussi celui qui propose un itinéraire, qui fait naviguer en fonction de l'équipage et pas seulement en fonction de soi qui a envie d'aller plus vite, plus loin. Donc ça a été, voilà, c'est pour ça que j'ai mis aussi de la régate à l'expérience spirituelle, de la régate à la croisière. Je pensais ne plus jamais refaire de régate, et puis là encore, ça m'a été redonné. Voilà, puis ça m'a conduit à l'écriture. Et finalement, peut-être ce que je retiens de tout ça, puis après je vais entrer dans l'expérience concrète, c'est que pour moi, le chemin du sport, de la voile, de la danse, ça a été un vrai lieu d'évangélisation. Enfin, je pense que l'enjeu premier, c'est de se laisser convertir dans ces pratiques. Moi, j'ai découvert, avec aussi toute ma formation religieuse, que j'avais, voilà, aussi peut-être une manière de faire du sport, un rapport au corps qui n'était pas toujours dans ce qu'on pourrait appeler la chasteté. Ouais. Voilà. Et que l'enjeu, dans tout ce chemin-là de pratiques sportives, mais qui va plus loin, enfin, moi, je peux absolument plus séparer aujourd'hui l'expérience spirituelle personnelle qui m'est donnée de manière très incarnée, voilà, et ça me fait toujours plus approfondir combien vraiment notre religion, enfin notre foi, elle est profondément incarnée, et c'est la chair qui est sauvée, et la chair tout entière qui n'est pas d'un côté le corps ou de l'autre côté l'âme. Alors c'est là où je disais toute l'approche de la phénoménologie en philo, Merleau-Ponty, voilà, moi ça m'a beaucoup nourri, le corps et langage. Et esprit, et l'esprit est cher. C'est comme les deux faces d'une même monnaie. Et donc que c'est en se laissant évangéliser et transformer dans ce lieu-là qu'on peut essayer, enfin c'est pas nous, c'est l'esprit à travers nous peut évangéliser les autres. Et aujourd'hui, pour moi, l'expérience de la voile, comme je disais, c'est l'expérience de la mission et c'est inséparable d'une expérience de pédagogue, que j'essaye d'être, d'éducateur aussi, et d'accompagnatrice spirituelle qui essaye de proposer aux jeunes l'expérience de la rencontre du Christ. Et ça peut l'être à travers ça. Voilà, donc ça c'est juste pour évoquer les différentes implications que j'ai eues. Donc en 99, on m'a proposé de faire vie en mer, entrer en prière. Ça a été une révélation pour moi de pouvoir allier l'expérience de la voile à l'expérience de partager le trésor qui, moi, m'a fait grandir des exercices spirituels de Saint-Ignace avec des plus jeunes. Ça m'a amené aussi, avec d'autres, à vivre une route maritime des JMJ de Rome. Et puis, en 2003, j'ai eu cette idée que je pensais complètement folle et que j'évoque un jour à table dans ma communauté en disant, mais tiens, quand même, on pourrait imaginer, comme j'avais fait le Tour de France à la voile, on pourrait imaginer un équipage de religieuses avec tout un projet pastoral d'animation qui participe au Tour de France à la voile. Puis après, je me suis rendu compte que c'était un peu ambitieux, mais ça a donné lieu pendant 5 ans, avec une équipe de religieuses apostoliques, on a participé à la régate, le Grand Prix du Croesti, avec aussi toute une présence et une animation pastorale. Il y a une chapelle sur le port en proposant la messe, les vêpres, mais aussi un temps d'accueil avec des gens qui étaient à terre. On a appelé ça du vent dans les voiles. Et à partir de là, ça nous a mis en lien avec une association qui s'appelle Cap Vrai, qui a été fondée par un dominicain et qui, dans l'essor de la plaisance, du monde de la voile de plaisance, il a eu l'intuition de dire il faut absolument que les chrétiens soient présents dans ce monde-là. Et il a fondé cette association Cap Vrai qui regroupe des skippers, en fait, et des propriétaires de bateaux qui mettent leur bateau à disposition de projets spirituels et sociaux. Et depuis l'origine du salon nautique, on leur a demandé d'être présents avec un stand et avec l'animation de la messe du salon nautique. L'association était un peu vieillissante, mais elle continue toujours. Et du coup, à partir de Du vent dans les voiles, et puis après, on a fédéré l'ensemble des initiatives chrétiennes en monde de la voile pour animer ces deux messes du salon nautique chaque année. Donc c'est intéressant. Au cœur du salon, on est présent sur un stand qui maintenant s'appelle Église en mer, qui regroupe les scouts marins, vie en mer, entrée en prière, donc Avance au large, le projet dont je vous parlerai sur la course de l'EDEC. Voilà, et l'idée, c'est de mettre en réseau un peu tous ceux qui ont cette approche par des biais différents d'être présents dans le monde de la mer. Et ça crée aussi des liens. Y a aussi, on est avec la SNSM, avec la marine. Maintenant, on a des très bons liens avec les loueurs de bateaux. Ça fait rejoindre tout un monde qui est celui de la mer et de la voile. Voilà, donc ça, c'est l'animation des messes. Après, à partir de Vie en mer, entrée en prière, qui étaient des croisières et qui sont toujours des croisières, on a monté des retraites où on est basé à terre, mais on navigue l'après-midi au centre spirituel de Penboc qui s'appelle Prier et naviguer. Voilà, et puis en théologie, en fait, il se trouve que j'ai fait mon mémoire de fin d'études de licence de théologie sur. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui m'a dit, mais voilà, pars de cette expérience qui est importante pour toi, des retraites vie en mer, entrée en prière. Et j'ai fait tout un travail d'éclairage sur le rôle de la mer dans la Bible et comment la barque, en particulier dans l'évangile de Marc, est le lieu de formation des disciples. Donc c'est très intéressant de voir, voilà, que le Christ. Et j'ai découvert, alors je vous le partage parce que pour moi ça a été aussi très fort, quand j'ai fait ce stage de formation de skipper au Glénan. Donc il y avait un petit jeune moniteur qui avait baroudé sur tous les bateaux. Alors il était trop dur. Quand je vais raconter que dans mes stagiaires, parce que sur un bateau, au bout de 3 jours, on se connaît, chez une religieuse, il n'en revenait pas, il n'était pas du tout. Mais un jour il dit, tu sais, de toutes les navigations que j'ai faites en régate, sur toutes sortes de bateaux, jamais j'ai vécu quelque chose d'aussi fort que sur les campagnes de pêche et les bateaux de pêche, parce que c'est quand même extrêmement dur et c'est pas possible de tenir s'il n'y a pas une solidarité humaine extrêmement forte. Et ça m'a fait découvrir, me dire, bah, finalement, si le Christ est allé appeler des pêcheurs, c'est qu'il a appelé sur ce terreau-là. D'une expérience humaine de la pêche et de la fraternité, de la solidarité qui est très forte. Voilà, et je trouve que c'est peut-être pas pour rien que le premier symbole de l'Église, c'est la barque. Alors, je ne vais pas développer ça, c'est dans mon livre, mais de dire finalement, voilà, il y a une affinité entre l'expérience de la foi et l'expérience de la mer et de la voile, enfin, de la pêche ou de la voile. Voilà, et puis après mes études, j'ai été nommée responsable de l'aumônerie des étudiants de Créteil, et puis assez vite responsable nationale de la pastorale étudiante à la conférence des évêques. Et en voyant ce qu'on fait en pastorale des jeunes, souvent on essaye d'organiser nos propres événements, des pélées, des tas de choses, où avec une énergie folle, on essaye de faire venir les jeunes dans nos camps, nos pélées, nos rassemblements. Et j'ai eu l'intuition de dire, mais regardons où sont les étudiants, qu'est-ce qui fait la vie étudiante et pourquoi on ne va pas dans les lieux où ils sont. Et la course de l'EDEC, c'est depuis 40 ans une régate de bateaux, mais maintenant il y a aussi un trophée terre sportif qui réunit 3 000 étudiants pendant une semaine. Voilà. C'est quand même, y a peu de lieux dans l'église où on a 3 000. Dit, ben voilà, allons participer au milieu des autres en étant une présence et en s'insérant, non pas dans nos, voilà, ne soyons pas toujours dans nos propres événements, mais comment on va rejoindre les gens dans les événements qui font leur vie. Et ça a été l'intuition de ce projet de participation des étudiants des aumôneries catholiques à la course croisière de l'EDEC. Je vais le développer un peu parce que c'est très intéressant. Voilà. Alors, vie en mer, entrée en prière, pour vous partager quelque chose d'une pédagogie qui a été quand même, voilà, très travaillée, assez pensée et formalisée, qui peut inspirer d'autres expériences, soit d'une semaine, soit de 2 semaines, qui ont été créées pour les 18-30 ans, et puis après, ça, on en a créé d'autres pour les plus de 30 ans. Et puis, donc, ces retraites, donc les camps en bateau, c'est vraiment, on part à 3, 4, 5 bateaux, et on vit dans le bateau, on va de port en port. Et l'enjeu, c'est que l'aventure de la mer devienne expérience spirituelle. Alors, je vous partage ça parce que c'est quand même très intéressant. En fait, Saint Ignace de Loyola, dont vous avez peut-être entendu parler, dans ses exercices spirituels, dès le début, il dit, pour essayer d'exprimer ce que sont les exercices spirituels, on entend toute manière d'examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier vocalement et mentalement et d'autres opérations spirituelles. De même, en effet, que se promener, marcher et courir sont des exercices corporels, de même appelle-t-on exercice spirituel toute manière. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est qu'il file la métaphore entre exercice spirituel et exercice corporel. Et toute l'intuition de Vie en mer, entrée en prière, c'est comment une école de voile, école de mer, est en même temps école de prière et école spirituelle. Et la clé de ce qu'on propose, c'est qu'on s'appuie sur, pour proposer tout un parcours spirituel et une initiation à l'oraison biblique, on s'appuie sur les métaphores de la mer. Et en fait, chaque jour, il y a un thème. Alors, ça va être le premier jour, ça va être embarquer, puis larguer les amarres, choisir son cap, traverser tempêtes et calmes plats, avancer au large. Et en fait, chaque jour, on fait un topo marin autour de l'expérience. C'est quoi concrètement choisir son cap avec des cartes, avec voilà. Et spontanément, les jeunes, dans l'accompagnement spirituel qu'on propose, dans les temps de partage, vont filer la métaphore pour parler de leur vie intérieure. Souvent, ils n'ont pas les mots. Hein. C'est peut-être ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus le vocabulaire de la tradition spirituelle pour exprimer ce qu'est l'expérience intérieure, ce qu'est l'expérience spirituelle, ce qu'est l'aventure de la vie avec Dieu. On n'a plus, par exemple, les mots du combat spirituel. Mais si j'ai vécu la tempête, eh bien, ils vont utiliser pour parler de ce qu'ils vivent tout le vocabulaire de la mer. Et en fait, c'est vrai que la voile, si vous en avez fait, il y a tout un vocabulaire, barrer, régler les voiles, les winches. C'est un peu un monde en soi avec tout un langage.
Je dis avant
Vous montrer après l'itinéraire, mais c'était pour l'évoquer. Et à travers ça, ce qu'on leur propose, en fait, c'est de faire une expérience, l'expérience de la rencontre du Christ. C'est une expérience de type Pascal, hein, de suivre le Christ jusque dans sa mort et sa résurrection. Et l'expérience du bateau, c'est ça qui est très intéressant. Je dis toujours, on ne peut pas naviguer sans faire confiance au skipper, sans faire confiance à l'équipage, sans faire confiance au bateau et sans faire confiance finalement à la météo, à Dieu. Et donc l'expérience la plus forte qu'ils font dans la voile, c'est vraiment cette expérience de confiance. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui manquent de confiance. C'est une expérience de foi. Et c'est une expérience sur... Il y a une intensité de relation et de vie sur un bateau en une semaine qui est assez extraordinaire. Et finalement, c'est une expérience d'église parce qu'ils s'aperçoivent qu'on ne peut pas vivre sans les autres, quoi. Et en bateau, dès que vous avez un peu de mer, il faut s'appuyer les uns sur les autres. Et le rôle de ces métaphores marines, comme je vous le disais, alors c'est un peu le principe aussi du scoutisme, hein, notre pédagogie elle ressemble en partie au scoutisme, c'est qu'en fait on incarne un imaginaire, et surtout quand vous quittez la Terre et vous quittez la vie des villes, hein, de la plupart des gens, vous êtes dans un autre monde, entre guillemets, et du coup ça donne un terrain pédagogique propice pour des expériences nouvelles, pour se déplacer, pour expérimenter autre chose. Et d'un point de vue pédagogique, c'est extrêmement intéressant. Alors, donc bien sûr, il y a cette vie en équipage. Sur chaque bateau, il y a entre 6 et 8 jeunes. Et on a le principe qui est aussi extrêmement intéressant d'avoir toujours un binôme d'animation. L'un est le skipper, donc le référent d'un point de vue marin. Il est garant de la loi s'il y a un problème. C'est lui qui... Mais ce skipper doit être aussi investi et porter la dimension spirituelle. Donc c'est des skippers ignatiens, jésuites, religieuses ou laïques, parce que nos équipes sont toujours mixtes, et ça c'est aussi très intéressant, jésuites, religieuses et laïques de spiritualité ignatienne, et l'accompagnateur spirituel qui est aussi sur le bateau, dans l'idéal, est un bon marin qui seconde le skipper, parce qu'après on demande rien aux jeunes, et beaucoup c'est la première fois qu'ils naviguent, mais on peut aussi avoir des gens... Alors moi, selon les cas, comme j'ai la double compétence, selon les camps, j'ai été soit skipper, soit animatrice spirituelle, mais je suis toujours investie. Mais c'est important d'avoir cette double référence, et c'est très intéressant de penser une animation avec ce double regard, en fait, et d'être à l'écoute de l'équipage. Alors, dans le bateau, vous savez, on fait la cuisine, tout est partagé. Il y a une vie ensemble en proximité. Alors là, comme je peux témoigner comme religieuse, mais aussi comme prêtre ou laïque, on partage une vie, c'est un espace réduit, le bateau. Hein, Et du coup, d'aller voir l'accompagnateur spirituel avec qui on s'est baigné, on a fait de la voile, c'est autre chose que d'aller le voir dans le bureau d'un centre spirituel. Vous voyez, ça crée autre chose. Bon, c'est sûr que le cadre de la nature est extrêmement porteur. Et moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai beaucoup appris avec la mer, c'est que c'est un monde mouvant. Hein, et tout l'enjeu, c'est de trouver son équilibre, vous parlez de stabilité, dans un monde mouvant. Et ça, c'est extrêmement instructif. Enfin, ça nous apprend beaucoup de choses pour vivre dans le monde d'aujourd'hui qui va très vite, qui évolue, qui est un monde aussi en évolution. Et on dit toujours, le marin propose, la mer dispose. Voilà. Donc on apprend aussi en mer que, en fait, c'est un formidable espace de liberté. On peut aller à peu près partout. Hein. Sur la mer, il n'y a pas d'autoroute. Mais en même temps, il faut composer avec le courant, avec la météo, il y a plein de contraintes aussi, mais c'est trouver sa liberté dans les contraintes. Ça ouvre les horizons, ça c'est clair. Bon, voilà, on peut vivre des choses similaires en montagne. L'itinérance, ça provoque aussi beaucoup de choses. On va de port en port. On essaye toujours de proposer une navigation de nuit, parce que là aussi, il se passe des choses la nuit. On organise des quarts de nuit. Un style de vie simple qui fait revenir à l'essentiel, ça c'est aussi très important, il se passe beaucoup de choses là-dedans, et puis ben, on s'adapte à la météo. Et alors aussi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un lieu d'apprentissage, et qu'une pédagogie spirituelle ou une pastorale s'appuie sur une expérience de formation et d'apprentissage technique, voilà, ça c'est très intéressant aussi. Et c'est à travers l'apprentissage de la voile que se joue aussi et qu'on allie l'apprentissage de la prière, de la vie spirituelle. Voilà. Et moi, je dis toujours mon rêve de skipper, enfin, j'ai bien réussi quand à la fin du camp, je ne fais plus rien sur le bateau. Voilà. Donc, comme je l'évoquais, cette aussi relation animateur-jeune dans cette vie ensemble, voilà, avec ce binôme skipper-accompagnateur. Et puis on leur propose, alors tout l'enjeu c'est de trouver, justement c'est de ne pas juxtaposer d'un côté ce qui serait l'expérience de la voile, et puis de l'autre côté on saupoudre de prières, de messes, c'est complètement d'articuler les deux, et c'est à l'intérieur même de l'expérience de la voile que se joue l'expérience spirituelle. Alors ça suppose justement ce travail très en lien et en commun entre les skippers et les accompagnateurs spirituels, hein, parfois. Les skippers, ils ont envie de prendre une option, soit pour partir en fonction de la météo, soit d'aller plus loin, soit de ralentir. Mais ça ne peut pas se faire sans. Voilà, parfois il faut négocier pour trouver l'équilibre et permettre aussi, tous les matins avant de partir, on propose un temps de prière à partir d'un texte biblique, une oraison. On leur donne donc ce topo marin qui va aussi spontanément avoir des échos spirituels. Et au milieu de la semaine, on fait une journée à terre qu'on appelle la journée désert, qui leur permet là d'avoir plus de temps personnel, de relecture de leur vie et d'accompagnement spirituel. Ils rencontrent chacun un accompagnateur personnel. Voilà, l'accompagnement personnel est quelque chose de très important. Et chaque jour, en fait, la manière dont est bâtie la journée, le matin, donc on est à terre avec le temps de prière commun, puis personnel, puis le topo. Ensuite, on navigue. Et l'après-midi, après le déjeuner, on propose 2 heures de silence sur le bateau. Alors, ils peuvent faire la sieste, mais aussi où ils ont un temps à partir de pistes de relecture. Et le soir, soit en mer, si la météo le permet, soit en arrivant au port, on prend un temps de partage en équipage. Voilà, qui est aussi très fort de ce que chacun vit, relie de sa vie. Et puis, il y a la convivialité, il y a les veillées, et la messe. Chaque jour ou tous les 2 jours selon la météo. Voilà. Alors pour vous montrer les thèmes de l'itinéraire en gros sur une semaine ou 15 jours, embarquer, larguer les amarres. Alors vous voyez tout de suite, vous pouvez entendre les résonances spirituelles. Barrer, apprendre à conduire sa vie. Faire le point. Voilà. Alors faire le point en bateau, hein, ça veut dire repérer où on est. Alors c'est aussi là le temps de la relais. Faire le point, c'est le thème de la journée désert en général. Phares et balises, voilà, les anciens nous lèguent des cartes marines, des phares, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous aider à avancer en mettant des repères, tenir le cap, équipier et équipage, là c'est du côté de l'expérience de l'Église, et puis débarquer, ça c'est aussi très important, soigner, débarquer. Voilà à quoi ressemble un camp vie en mer. Avec la vie quotidienne, l'expérience spirituelle. La voile, c'est un sport extrêmement convivial dans les ports. Vous discutez, on prend l'apéro. ça fait partie. Voilà. Alors, je passe sur une deuxième expérience qui s'est inspirée de la pédagogie de Vie en mer, entre en prière. Donc, s'il y en a que ça intéresse, j'ai apporté quelques bouquins et c'est dans ce livre que je, à la fois, je raconte et puis j'analyse la pédagogie proposée au regard d'un certain nombre de choses. La course de l'EDEC, donc, l'idée, ça a été voilà, de proposer aux étudiants catholiques des aumôneries ou plus éloignés des aumôneries de participer à cet événement sportif qui chaque année donc rassemble 3000 participants, 10 000 visiteurs, 150 bateaux et puis donc il y a un trophée mer, un trophée terre et un trophée sable. Et l'idée c'est d'être vraiment au milieu des autres et de participer à ça. Ce qu'il faut savoir et qui est très intéressant c'est que pour beaucoup de jeunes qui connaissent un peu, la course de l'EDEC ça fait rêver. Voilà. Et en même temps, comme tout événement étudiant, il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect festif. Tous les soirs, il y a des soirées, y compris avec ses dérives d'alcool. Voilà. Alors, tout l'enjeu pour nous, et avec les étudiants qui participent avec nous, c'est comment on va être au milieu des autres, mais aussi on est en mission d'église, et comment on se comporte. Alors, il ne s'agit pas de ne pas aller faire la fête, ils vont dans les soirées, mais comment on va dans les soirées? Donc, ça mène aussi toute une réflexion. Qui est très intéressante et finalement l'enjeu à travers ces étudiants qui viennent avec Avance au large, certains n'iraient pas avec le club voile de leur école qui est quand même hyper débridé ou alors qui peut être très porté sur uniquement la performance, donc ils viennent avec nous et ils découvrent qu'on peut faire finalement le lien entre sa foi et le sport, la fête, la vie étudiante, et ça c'est quelque chose aussi d'assez capital de les aider à unifier parce qu'il y a quand même beaucoup de cathos qui sont aussi dans les autres bateaux. Et pour certains, voilà, on va s'éclater pendant une semaine et puis après on ira se confesser et on fera un peu de catho, enfin vous voyez. Donc nous, avec ceux d'Avance au large, on va essayer de les aider à découvrir comment être au milieu de tout ça, dans une cohérence de vie et de foi qui s'exprime aussi dans le sport, dans la fête, dans la rencontre. C'est aussi à travers ça, de donner une visibilité aux propositions d'église à l'égard des jeunes et aux aumôneries étudiantes. D'aller à la rencontre des étudiants en quête de sens. Moi, je ne cesse au fur et à mesure de mes années en pastorale des jeunes, enfin, quand je dis pastorale des jeunes, c'est présence au monde des jeunes de manière large, de découvrir et de dire, en fait, on est sur un terrain archi, archi favorable. La première année, quand on est allé à Avance au large, beaucoup d'étudiants disaient, oulala, on va porter l'étiquette gâteau. Pour certains, c'était la première fois qu'ils s'affichaient comme ça. Comment on va être accueillis? Mais en fait, on a été plus que bien accueillis. Et les organisateurs de la course, qui sont des étudiants de l'EDEC, nous remercient d'être là en nous disant, voilà, on sent que vous apportez autre chose, ça donne une présence. Et nous, nos sponsors, ce n'est pas des grandes entreprises. En fait, on fait l'idée, c'est aussi de mettre au cœur de la course les valeurs de la solidarité. Et on fait des partenariats avec l'Arche, le Secours catholique, le CCFD. Et finalement, les autres étudiants nous renvoient, vous avez de la chance d'être sur un projet qui a du sens et de pas être là simplement, soit pour faire la fête, soit pour gagner. Mais que votre démarche, finalement, elle nous interpelle, alors il n'exprime pas toujours comme ça, mais parce que vous êtes sur un projet qui a du sens. Voilà. Et en fait, ils sont extrêmement touchés. Il y a toujours 2-3 aumôniers. Donc moi, pendant 3 ans, j'ai skippé un équipage. On a soit des prêtres diocésains, des religieux, même des laïcs qui participent. Et les jeunes sont extrêmement touchés que l'Église vienne à leur rencontre dans ce lieu-là, avec toutes les ambiguïtés qu'il peut avoir, mais aussi toutes ses richesses et sa joie. Et pour certains, du coup, ça provoque des tas d'échanges. Alors, nous, sur le projet Avance au large, selon les années, parce que maintenant, là, il vient d'y avoir lieu la 5e édition, enfin, c'est la 5e fois qu'on participe, et on est entre 30 et 50. Voilà. Et donc, selon 2 à 5 équipages, on n'est pas seulement présent. Alors, les bateaux, c'est ce qu'il y a de plus visible, mais il y a aussi le trophée terre, et ça, on essaye d'avoir, c'est pas toujours possible, mais d'avoir des équipes qui participent. C'est un raid sportif, vélo, course à pied, canyoning, parfois. Donc là, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui font le trophée terre. Et surtout, il y a aussi tout ce qu'on appelle le trophée sable avec un village des stands des universités, des écoles ou des entreprises. Et nous, on a le stand Avance au large avec l'Arche ils sont là avec des personnes handicapées. On fait des crêpes. Alors, tout le monde vient nous voir. Au bout de 2 jours, ils savent tout ce qui est avance au large. On a aussi des cirés. Et ça donne lieu à plein d'échanges, en fait. Voilà. Alors, parfois, ça peut être très bref, mais parfois, moi, j'ai entendu un étudiant dire, bah, le fait que vous soyez là, moi, ça n'avait jamais, 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 je m'étais posé la question de Dieu. Ce n'était pas dans mon champ conceptuel ou dans mon champ de vision. Ah ben, il faut peut-être que je me pose la question. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a toujours travaillé et monté le projet très en lien avec les organisateurs de la course. Ça, c'est aussi important. Et c'est eux qui nous ont dit, ah, mais vous pourriez peut-être nous organiser une bénédiction des bateaux. On n'avait pas eu cette idée. Du coup, on demande à l'évêque du lieu de venir faire la bénédiction des bateaux. Là, c'est Monseigneur Levert qui aime bien la voile aussi. Il se trouve qu'il a fait Baval. C'est l'évêque de Quimper et Léon. Et alors, ceux qui veulent viennent se faire bénir leur bateau. Et puis, chaque jour, on prend un temps de prière quand on est en régate. C'est assez long de rejoindre le. Parce qu'on fait des triangles olympiques ou des parcours côtiers, donc on prie sur le bateau, et tous les soirs on a une messe, et finalement il y a aussi d'autres étudiants qui viennent. D'une certaine manière, on assure l'aumônerie de la course. Voilà. Parce qu'il y a aussi des cathos dans les autres bateaux ou des gens. Mais du coup, ça nous permet de bien articuler aussi là la proposition spirituelle avec l'expérience du sport. Et alors, c'est vrai que, bon, on l'a un peu évoqué hier, voilà, ça fait découvrir pour beaucoup une autre image de l'Église, une proximité avec bah, des aumôniers, avec des étudiants catholiques. Ça suscite des tas d'échanges, de discussions. Voilà, et moi je dis un peu mes maîtres mots pour la pastorale aujourd'hui. Je crois qu'il faut être audacieux, pragmatique, créatif et décomplexé. Alors chacun selon ses charismes, il n'y a pas. Mais c'est une très belle expérience. Finalement, les étudiants, ce qu'ils en retiennent, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils découvrent le fait d'être en mission, envoyés au nom de l'Église. Et on les prépare aussi dans cet esprit. On ne fait pas seulement la prépa. Alors, on fait un week-end d'entraînement. Et moi, je vois bien sur les week-ends d'entraînement, le premier jour, on ne parle que réglage de bateau, technique et tout ça. Et le deuxième jour, ils me posent plein de questions sur la foi, la vie religieuse. Voilà. Alors, du coup, cette pédagogie-là, je l'ai déclinée après à l'aumônerie des étudiants. À Créteil, j'étais vraiment avec des étudiants très, très brassés, beaucoup issus de l'immigration, milieu très populaire, c'est la banlieue, qui n'ont pas accès généralement à ce genre de choses. Et moi, une des optiques que j'ai, c'est comment on fait découvrir, c'est comme une expérience très porteuse, la voile, comment on la partage au plus grand nombre, en particulier à ceux qui n'y ont pas accès spontanément. Et en travaillant avec l'association Cap-Vrai, qui nous prête ses bateaux. Voilà. Et à Créteil, on a jumelé notre aumônerie, vous voyez, banlieue très populaire et tout ça, avec l'aumônerie des étudiants de Sciences Po, qui est vraiment un autre milieu. Et entre autres, on faisait un week-end commun voile et prière. Et c'est vrai que le bateau est aussi un très bon lieu de rencontre, de mixité sociale. Les masques tombent et c'est un bon lieu de. Voilà. Alors je termine avec quelques convictions, un peu de tout ça. C'est vraiment l'atout d'une double compétence sportive et spirituelle. C'est pareil comme skipper, quand on a les briefings skipper, où on débriefe la régate, voilà, on discute tactique et tout ça. On est reconnu sur cette compétence-là. Moi, je ne le disais pas, mais c'est pareil, au bout de 2 jours, tout le monde sur les pontons savait qu'il y avait une sœur skipper. Et alors après, voilà, ça suscite des tas de choses. Et je dis souvent, dans notre société aujourd'hui, le christianisme, l'Église, les prêtres, on n'est plus d'emblée reconnu sur une crédibilité spirituelle, mais quand on a une double compétence, alors pour certains, ça peut être la musique, le sport, des tas de choses, c'est une porte d'entrée et ça permet des tas de choses. Donc ça, je trouve, c'est vraiment. Voilà. La deuxième chose, c'est la force des métaphores et des images sportives. Alors, dans le monde de la voile, ça parle énormément, mais ça peut se faire sur plein d'autres. Voilà, même Saint Paul, il a utilisé la métaphore de la course. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de développer le langage symbolique et de parler avec des images. Alors, on voit que notre pape est très fort là-dessus et que ça touche les gens, ça parle. Et de sortir uniquement d'une approche conceptuelle. Enfin, il ne faut pas l'opposer. L'expérience aussi du sport, de la voile comme un lieu de mixité sociale et de transmission entre générations. Quand on fait les sorties voile avec Cap-Vray, voilà, c'est des skippers retraités qui ont baroudé, mais il se passe des choses extraordinaires à travers la transmission sur une technique sportive. C'est bien plus, c'est une expérience humaine, c'est bon, un lieu porteur pour communiquer une autre image de l'Église, on l'a évoqué. Ça, je l'ai partagé à pas mal en discussion plus personnelle, mais je crois un enjeu extrêmement fort à valoriser la place du corps et du sport dans le contexte actuel. Moi, mon hypothèse, c'est que plus on passe du temps, et les jeunes en passent de plus en plus sur les écrans, plus il y a un besoin implicite que les choses aussi s'incarnent, passent par des gestes et par le corps. Souvent, on interprète, et peut-être certains d'entre vous le font, par exemple, de plus en plus, je vois bien les jeunes cathos, ils se mettent à genoux à la messe. Bon. Mais c'est pas du tradit pour beaucoup. C'est parce qu'il faut que ça s'incarne, que ça passe par des gestes. Et on a besoin dans nos pastorales de sortir de la réunion autour de table, même si elle est utile. Mais je crois que l'Église crève de ça aussi. Et puis derrière, l'enjeu de susciter la mise en réseau, de susciter des initiatives. Je crois que la pastorale aujourd'hui, il n'y a pas une pastorale du sport, comme dans bien d'autres lieux, mais il y a un enjeu extrêmement fort à créer de la synergie, de la communion et de la mise en réseau entre tout ce qui émerge, et que ceux qui ont une expérience de pédagogie, comme la FSF, comme Luxeuil ou des lieux comme ça, comment ça peut irriguer les initiatives plus nouvelles qui naissent des charismes des uns et des autres. Voilà. Et je dirais, moi, l'expérience, c'est vraiment le sport comme aventure humaine, spirituelle et ecclésiale. Je crois qu'on a encore bien des choses à explorer. Peut-être le point fort que je retiens, c'est vraiment un lieu de pastoral, de la rencontre, de la conversation, du dialogue, où l'expérience de la rencontre des autres est expérience de la rencontre de Dieu et vice-versa. Voilà. Et je dirais que pour moi, aujourd'hui, c'est un terrain très porteur pour la nouvelle évangélisation, qui est l'évangélisation dans les conditions de la nouvelle culture d'aujourd'hui. Voilà. Il ne s'agit pas de réinventer l'évangélisation, mais de prendre acte du contexte actuel. Voilà quelques convictions. Alors, voyez que je ne suis pas mono-voile, à l'aumônerie, on a aussi fait des fêtes avec le foot, mais qui a certainement des liens. Oui, je partage ça, je pense qu'il faut renforcer les liens entre pastoral du sport et pastoral des jeunes. Voilà. Et ça, c'est les sites de notre service, si vous voulez. Il y a ces deux petits bouquins. Celui-là, c'est plutôt à travers la poésie qui m'a été donnée. C'est un peu l'itinéraire d'une transformation pascale, je dirais, à travers la rencontre du Christ, la vie religieuse. Et en fait, moi, c'est la mère qui m'a donné les mots. Voilà, la mère et la voile m'ont donné les mots pour exprimer quelque chose de ce que le Christ m'a donné de vivre. Voilà. Moi, c'est impressionnant, je ne sais pas, j'ai dû animer une vingtaine de camps de retraite. Enfin, je ne cesse d'être étonnée à chaque fois de ce que ça produit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la transformation, bon, on l'entend dans l'accompagnement, dans le chemin C, mais elle se voit d'abord sur le corps et les visages. C'est très impressionnant de voir, on voit sur les photos, quand les gens arrivent, et parfois certains arrivent avec des choses lourdes, des visages fermés, et à la fin du camp Vie en mer, alors les visages sont bronzés, mais c'est pas que ça, non mais je veux dire, non mais il y a une joie, une ouverture spirituelle qui se traduit aussi qui se traduit dans le corps. Moi, voilà, mais dans le corps aussi, et on le voit, c'est très révélateur. Sur un bateau, quand vous voyez les gens, la manière dont ils barrent, enfin, on voit beaucoup de choses. Et effectivement, la transformation, et je pense, moi j'ai découvert ça au fur et à mesure, qu'il y a quelque chose aussi peut-être, alors on pourrait faire le parallèle dans ce qui se fait dans l'Évangile, mais qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un lieu de guérison parfois, ou de, bon, enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, en une semaine, ça peut être impressionnant ce qui se joue, ou les retraites, c'est 5 jours, hein, mais c'est pareil sur les retraites, et que ça se voit, y compris physiquement, quoi. Alors, on est relié en fait à ce qui s'appelle le réseau jeunesse ignatien, qui est donc les propositions de la famille ignatienne, donc jésuite, religieuse ignatienne et laïque de la communauté vie chrétienne. Et il y a un certain nombre de jeunes nous demandent, soit avec moi, j'ai accompagné un certain nombre de jeunes qui ont fait des camps, qui m'ont demandé après, soit selon les, parce qu'ils viennent de toute la France, on les aiguille sur d'autres. On leur propose aussi de rejoindre d'autres lieux. On fait toujours en fin de camp une présentation de bah, quoi pour la suite, avec des tas de possibilités, avec aussi, parce qu'ils découvrent pour beaucoup la prière ignatienne. Alors il y a un site, par exemple, qui s'appelle Notre-Dame du Web, enfin on donne plein de possibilités. Donc on a le souci de la suite. On fait toujours, toujours un retour de camp. Ça c'est très important. On fait en octobre, on réunit tous ceux qui veulent, qu'on fait les camps, où là on va relire, on va partager, on va se montrer les photos. Le rendez-vous du salon nautique aussi, chaque année, on le propose à tous les anciens. Donc ça fait. Voilà, donc effectivement, on a le souci. Et au début, on disait, on fait ça qu'une fois, puis c'est fini. Maintenant, il y en a beaucoup qui nous redemandent de continuer. Et donc on les autorise à faire un deuxième camp, mais s'ils reviennent, on va leur demander de s'impliquer un peu dans l'organisation, sur l'intendance, sur l'organisation des transports. Et puis ce qui est très beau, c'est qu'on a aujourd'hui un certain nombre de skippers ou d'accompagnateurs qui ont fait la proposition comme jeunes, et puis ils ont découvert un lieu important pour eux, ils se sont formés et ils rejoignent nos équipes. Voilà. Non, pas que l'été, il y a aussi à la Toussaint. Alors ce que j'ai pas dit, mais vous pouvez aller voir, on a un site internet qui s'appelle vieenmer.org où vous avez toutes les propositions.
Le public, vraiment le public, la proposition, quel public?
C'est. Alors, en fait, en gros.
C'est un effectif quand
Oui,
même. Alors,
c'est des petits effectifs, mais de.
ou pas du tout?
Non, mais depuis 1995, on a plus de 1000 personnes qui sont passées.
Oui,
Hein.
d'accord.
Mais c'est sûr que ce n'est
C'est
pas une proposition, c'est pas un rassemblement de masse. C'est assez varié, c'est assez varié. C'est soit des jeunes qui ont déjà fait une activité avec le réseau jeunesse ignatien, soit qui viennent par exemple d'aumônerie étudiante, du MCC, de la CVX, du MEJ, du scoutisme, parce qu'ils
Il y
retrouvent.
a quand même une culture ecclésiale quelque part.
Oui, mais aujourd'hui on accueille, vous savez, d'ailleurs les jeunes aujourd'hui, ils vont ici, ils vont là, ils passent d'un truc à l'autre. On a des jeunes, un jour ils ont fait un truc avec les béatitudes ou les manuels et puis ils viennent chez nous, ils repartent. Il y a des jeunes, vraiment il y a un certain nombre de jeunes pour qui ils n'iraient pas faire un pélé, un truc, mais parce que c'est la voile, ça a été aussi l'intuition de la proposition. Et au départ c'était aussi, l'idée c'était de dire avec ce type de proposition on peut toucher davantage les garçons. Parce que parfois dans l'église, vous le savez peut-être, selon les lieux, on a quand même des propositions où il y a toujours beaucoup plus de filles, parce que peut-être aussi on a un type de pédagogie.
Mais
Alors
ma
après,
question curieuse, c'est de dire, est-ce qu'il y a du hors église?
il y a du complètement hors église, mais il y a des jeunes qui ont parfois pris pas mal de distance et qui redécouvrent par ce biais-là quelque chose. On a toute la palette en fait. Je dirais, on a à peu près toute la palette. Voilà, il y a une certaine diversité. Après, ce qui est très important, c'est qu'on essaye, donc tous les animateurs, on est bénévoles, petit à petit, on tisse des liens avec des loueurs, et il y a un loueur, notamment Cato, qui nous fait des prix. On essaye d'avoir des prix, voilà, pas trop élevés, et surtout, on a une caisse de solidarité pour que l'argent ne soit jamais un frein. Et donc, à tous les camps, on aide des jeunes qui ne payent pas l'ensemble. Non, c'est pour ça que c'est une expérience. Alors on y va progressivement, c'est-à-dire le premier jour on va pas trop naviguer, voilà, on les amarine, hein, parce qu'il y a aussi le mal de mer, il y a les grandes traversées avec navigation de nuit, on fait ça au bout de 3-4 jours, pas tout de suite. Et puis quand on revient le soir, bah, s'il fait beau, on va se baigner, on va marcher, voilà, on vit dans le bateau, mais il y a aussi l'escale, enfin la voile c'est aussi toute la vie en escale. Soit on est au mouillage, soit on est dans un port. Et puis le fait qu'il y ait une journée désert au milieu où là ils ont plus de temps à terre, voilà, ça aide aussi. Parce que c'est vrai quand on n'est pas à mariner.
Dans le bateau, il y a pas beaucoup
Ah non, on apprend à. Oui, mais dehors, les horizons sont ouverts.